Voilà, voilà, c'est Du Poil Sous les Bras, c'est même la 79e émission de Du Poil Sous les Bras, et c'est une émission enregistrée après le second tour des municipales de 2026. Je le précise parce que la politique locale, c'est tout le temps qu'il faut en parler, pas seulement lors des élections. D'ailleurs, le plus intéressant, c'est le troisième tour, hein, celui qui dure 6 ans en général, 7 ans cette fois. Le troisième tour, c'est la réalité de ce que la municipalité élue va mettre en place au fil de sa mandature, et notamment ce qui sera mis en place pour lutter ou pas contre les inégalités. Mais avant de parler de cette lutte avec mon invité, voyons à qui nous avons affaire.
Alors, les gens comme moi, je crois que c'est les femmes de 50 ans qui vivent leur meilleure vie. Moi, j'ai une vie compliquée, un peu dure parfois, notamment sentimentalement, mais aussi très intense professionnellement. J'ai eu 4 enfants, dont 3 quand j'avais 25 ans, donc à 25 ans, j'avais 3 enfants. Et là, ma dernière fille vient d'avoir 18 ans. J'ai un amoureux formidable, mon boulot est super, je fais des chroniques à la radio, j'ai écrit de la fiction. Je crois que ma vie pourrait pas être plus parfaite, enfin voilà. Je suis très heureuse et je me souviens très bien avoir entendu quand j'étais plus jeune ces histoires sur à 50 ans, la ménopause, les enfants qui s'en vont de la maison, tout ça, c'est quand même en gros déprime. Et moi, c'est le contraire, vraiment le contraire. Donc, je suis sûre qu'il y en a d'autres comme moi et c'est trop bien. Et donc, à celles qui galèrent un peu autour de 30, 40, tout ça, qui se posent plein de questions, franchement, laissez couler. Ça peut être vraiment encore super mieux.
Hashtag je suis une femme de la cinquantaine. Oui, 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 la cinquantaine, c'est l'éclate. Je confirme, je crois que moi aussi, je vis ma meilleure vie. Alors bon, côté ménopause, c'est pas complètement gagné, hein. Après 341 jours sans mes règles, eh bien, elles sont revenues. Alors pas longtemps, pas nombreuses, mais quand même la grosse loose. Le seul avantage, c'est que quand j'ai commencé à en parler au patron de mon bar préféré, il m'a offert à boire pour changer de sujet. Voilà, c'est quand même marrant les règles, hein. C'est un sujet qui ne concerne pas les hommes. En tout cas, bon, ils n'ont pas leurs règles, ça nous a pas échappé, mais ils sont souvent plus gênés que nous, les femmes, quand on en parle. Bref, revenons à notre brebis heureuse du jour. Bonjour Cécile.
Bonjour, je suis Cécile Duflo et je suis la directrice générale d'Oxfam France, une ONG qui agit contre les inégalités.
Et oui, vous le saviez peut-être déjà, Cécile Duflo est désormais directrice générale d'Oxfam France. Je dis désormais, mais ça fait déjà un petit bout de temps. Alors Oxfam, ça vient de Oxford Committee for Relief Famine, un comité de lutte qui s'est créé d'abord en Angleterre et qui s'est développé, qui a évolué, on va y revenir. Mais du coup, ne nous attardons pas trop sur le passé et regardons devant. Et devant nous, eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Devant nous, il y a la pauvreté, encore et toujours, et les inégalités qui explosent. Depuis 2019, la fortune des milliardaires français a augmenté de plus de 24 milliards d'euros, 13 millions d'euros par jour, s'il vous plaît. Dans le même temps, grosso modo, en France, plus d'un million de personnes ont-elles basculé dans la pauvreté, et principalement des femmes, une pauvreté qui dépasse aujourd'hui 15% de la population française. Alors, A plus B égale C, plus il y a de très très riches, et bien plus il y a de très pauvres. Et plus il y a de richesses indécentes, et bien plus il y a de misères criantes. Inégalité rime avec pauvreté, et c'est là que je reviens à la politique locale. Car partout, si on veut que l'inégalité régresse, autrement dit, que l'égalité progresse, eh bien, il faut qu'elle soit portée politiquement, cette égalité. Et c'est ça, un des messages forts d'Oxfam. Pour que les inégalités reculent, il faut le vouloir, il faut agir politiquement, et donc, bah, par exemple, localement, à l'échelle de nos villes, au quotidien, avec des solutions concrètes et créatives. La politique de la ville, c'est un des échelons de la lutte contre les inégalités sociales, climatiques et de genre. Et c'est de ça que j'avais envie de parler avec Cécile Duflo tout de suite dans Du Poil Sous les Bras.
La petite blanche dans Du Poil Sous les Bras.
Je vous le disais à l'instant qu'on allait parler tout de suite hein, des inégalités, mais en fait, juste avant, j'aimerais quand même savoir d'abord, mais qu'est-ce qui a amené Cécile Duflo chez Oxfam ?
Moi, j'ai un parcours un peu bizarre, en fait, pas très commun, parce que d'abord, j'ai fait des études dans le privé pendant 10 ans. Et donc, j'ai pas du tout commencé par la politique et surtout pas en étant collaboratrice d'élus. Donc, vraiment, j'ai travaillé ça m'a beaucoup apporté, parce que c'est ce que je voulais aussi en arrêtant la politique. Et donc, après ces 10 années, je me suis engagée en politique. Petit à petit, j'ai pris des responsabilités jusqu'à devenir secrétaire nationale des Verts, donc la chef du parti. À l'époque, je travaillais encore à temps partiel. J'étais secrétaire nationale et j'étais aussi salariée dans un groupe privé à temps partiel pendant 2 ans, 1 an et demi. Et ensuite, j'ai vécu de la politique à plein temps, en tout 7 ans, en étant ministre, en étant élue régionale et puis ensuite députée. Et quand j'ai perdu les élections, ce que j'avais anticipé parce que c'était assez prévisible, après l'élection d'Emmanuel Macron, je me suis dit, là, je fais autre chose. Je ne sais pas si je referai un jour de la politique ou pas, mais je voulais faire autre chose et je voulais retrouver un travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai répondu à quelques annonces, mais à celle d'Oxfam qui proposait le poste de directrice générale. Et donc, on était 120 candidats. J'ai fait plein d'entretiens. Des entretiens en anglais, des tests psychotechniques, et j'ai été recrutée avec un choix du conseil d'administration qui était un choix qui était osé, hein, de recruter une ancienne femme politique avec une visibilité médiatique. Mais je crois qu'ils ont eu raison, je veux le dire, parce que ça va bientôt faire 8 ans, et je crois qu'il fallait 2 choses à Oxfam, à la fois plus de visibilité, donc là c'était un espèce de bon accord, je pouvais apporter une partie de ma notoriété à un sujet et à un projet qui m'intéressait, et puis aussi de la gestion d'organisation, parce que moi je pense que ce que j'ai appris au fil du temps, je le dis, c'est pas souvent facile pour les femmes de le dire, mais moi je pense que je suis une chef en fait, je sais diriger, ce qui veut pas du tout dire, au contraire d'ailleurs, de tout ce qu'on vit, donner des ordres, mais essayer de comprendre quels sont les bons moyens de mettre des gens à la bonne place et trouver les bonnes clés pour que tout le monde soit content à sa place et que l'organisation bouge. Et Oxfam a beaucoup changé depuis que je suis arrivée et me sens toujours aussi à ma place et alignée dans une organisation qui lie les questions sociales et les questions environnementales.
On sent qu'elle est épanouie, Cécile Duflo, chez Oxfam. Et pour être honnête, Oxfam, je ne connaissais pas trop avant que Cécile en prenne la tête. La notoriété et le réseau de Cécile Duflo ont, moi je le crois, beaucoup apporté à Oxfam. Alors pour autant, je me doute bien que parmi vous, auditeurs, auditrices, certains ne savent toujours pas bien ce qu'est Oxfam.
Alors Oxfam, c'est très connu dans certains pays, notamment en Grande-Bretagne, en Belgique par exemple. C'était moins connu en France, mais Oxfam France fait partie de la grande famille d'Oxfam International, avec la particularité que c'est une confédération, donc chaque association nationale est indépendante. Donc Oxfam France a une identité particulière. Et l'identité d'Oxfam France, c'est d'être née en 1989, au moment du bicentenaire de la Révolution française. Et le président de la République à l'époque, François Mitterrand, organise entre autres un G7, donc un sommet des 7 pays les plus riches, au sommet de la Grande Arche qui vient d'être inaugurée. Et un certain nombre de collectifs disent non, mais en fait l'idéal des révolutionnaires, 200 ans après la Révolution française, c'est un idéal de solidarité entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et il crée un appel qui s'appelle Agir ici pour un monde solidaire, et c'est ça qui va devenir Oxfam France. Donc dans son ADN, dans son identité, il y a vraiment cette idée de la solidarité entre le Nord et le Sud qui a évolué vers la lutte contre les inégalités avec une forte dimension environnementale, climatique, parce que ce qui aggrave les inégalités, c'est 2 choses. C'est la crise climatique et c'est le fait des inégalités millénaires entre les hommes et les femmes. Donc voilà, c'est les 3 sujets qu'Oxfam lit avec 2 modes d'action sur le terrain. On a des collègues qui font du travail humanitaire pour les populations qui sont victimes de catastrophes naturelles ou de conflits. Mais on a aussi tout un tas de projets de développement dans les pays du Sud, notamment autour des communautés de femmes, de l'agroécologie en particulier, mais pas seulement. Il y a aussi de l'étuvage de riz, par exemple, tout un tas de projets qui permettent de donner à ces communautés les moyens de construire leur propre avenir. Et tout ça, ça fonctionne grâce à des dons. Puisque Oxfam a aujourd'hui 67 000, presque 70 000 donateurs qui, chaque mois ou une fois par an, nous donnent de l'argent pour qu'on puisse fonctionner et puis soutenir tous ces projets partout dans le monde.
Vous l'aurez compris, Oxfam est un mouvement citoyen au service de la lutte contre les inégalités et la pauvreté. C'est une association, loi 1901, d'intérêt général, une organisation qui s'active à chercher des solutions durables dans 85 pays pour mettre fin donc aux injustices qui engendrent la pauvreté. Mais comment on mobilise justement ce pouvoir citoyen localement pour agir parfois à l'autre bout du monde ? Est-ce qu'avec la pauvreté qui s'accroît en France, cet objectif de solidarité internationale est toujours bien compris par la population ?
Alors d'abord deux choses. Oxfam, historiquement, on a moins, au tout début en France, l'idée c'était quand même de faire bouger les choses en Europe et en France, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que nous on fait, notamment on fabrique des armes, ou on subventionne un certain nombre de produits agricoles et du coup on désorganise totalement l'agriculture des pays du Sud. Donc qu'est-ce qu'on fait nous et qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour pas nuire aux pays du Sud. C'était plutôt ça au départ la logique. Donc il y avait vraiment le fait de s'intéresser à ce qu'on faisait nous. Et aujourd'hui, on a beaucoup travaillé parce que le sous-entendu de ça, c'était de dire aussi nous, on est sympa et on aide les pauvres gens du Sud, qui avaient un côté un peu colonial et un peu surplombant. Donc ça, pour le coup, on s'est débarrassé de cette logique depuis très longtemps. Le siège, enfin c'est même si c'est toujours un combat de déconstruction de sa pensée, le siège d'Oxfam International, il est à Nairobi au Kenya, il n'est plus à Oxford en Grande-Bretagne depuis presque 10 ans maintenant. Et pour nous, ce qui est important, c'est justement de partager les mêmes valeurs dans tous les pays. Donc la lutte contre les inégalités, elle existe aussi en France. Et Oxfam France, on travaille au service et avec nos collègues de tous les pays du monde, mais on travaille aussi sur la France. On a publié un certain nombre de travaux sur, et d'alertes, notamment sur l'aggravation des inégalités en France. Le premier document vraiment très clair, c'est au moment de juste après l'élection d'Emmanuel Macron, où on dit vers un quinquennat des inégalités en analysant le projet de loi de finances de l'époque. Et en fait, bah, on avait raison parce que l'INSEE a montré qu'on n'a jamais eu autant de pauvres en France qu'aujourd'hui et que les plus riches des plus riches n'ont jamais été aussi riches. Donc oui, les inégalités se sont aggravées. C'était prévisible quand on regardait les choix politiques. Donc nous, on travaille aussi sur la France. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne promeut pas la solidarité et qu'on ne pense pas cette vision de la lutte contre les inégalités dans une vision internationale. Bien sûr qu'il y a un repli, il y a peut-être en termes de valeur une moins grande évidence, c'est-à-dire que pendant des années, critiquer le fait de sauver des gens qui se noyaient dans la mer Méditerranée, c'était absurde. Là, il y a eu quand même l'émergence d'un discours tout à fait négatif, mais ce n'est pas parce que ce discours émerge qu'on ne doit pas le contrarier, voire le combattre, ce qu'on fait. Mais on doit aussi se mêler de ce qui se passe chez nous. Donc en fait, c'est vraiment Oxfam essaye d'équilibrer ses approches entre chez nous et la solidarité avec les autres pays.
Macron avait promis, rappelez-vous, de s'occuper des inégalités. Alors, en un sens, il s'en est occupé, il les a renforcées. Voilà, il a fait très exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour avoir une société plus juste. Pour autant, ça me questionne souvent d'essayer de comprendre pourquoi une partie de la population préfère blâmer les pauvres plutôt que s'en prendre aux ultra-riches qui piétinent tout le monde. Et c'est embêtant, cette incompréhension, parce que si on veut, comme Oxfam, lutter contre les inégalités, il faut peut-être d'abord que tout le monde soit bien d'accord sur d'où proviennent ces inégalités, sur ce qui les engendre, ce qui les produit.
D'abord, si on pose la question aux gens de façon précise, ils partagent assez largement l'idée qu'il faut lutter contre les inégalités. Ce qui est vrai, c'est qu'on a du mal à se représenter l'immensité de certaines richesses. On a 1 million d'euros, 2 millions d'euros, allez, même 10 millions, on voit à peu près ce que c'est. Mais en fait, 1 milliard, 10 milliards, c'est, ça n'a rien à voir. Et je raconte souvent cette histoire pour que les gens visualisent. Si je te donne 1 euro toutes les secondes, comme ça, bim, 1 euro, 1 euro, 1 euro, il va falloir 12 jours pour que tu sois millionnaire. Pour que tu sois milliardaire, il faut que je continue comme ça, 1 euro, 1 euro, 1 euro pendant 32 ans. Donc la différence entre millionnaire 12 jours et milliardaire, c'est 32 ans avec 1 euro par seconde. Donc il faut se rendre compte de l'énormité et du coup de tout ce qu'on pourrait faire si on partageait un peu mieux cette hyper fortune. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on ne ruinerait pas les milliardaires. Il n'y a aucune chance. Nous, ce qu'on demande, c'est un peu plus de justice, voire beaucoup plus de justice, sans dire qu'on va tous être pareil, c'est pas du tout ça notre propos, mais c'est de dire là on a atteint des seuils d'inégalité qui sont pas acceptables. Et oui, notre sujet c'est la pauvreté, c'est-à-dire que le vrai sujet c'est que, et ça a été montré pas seulement par des ONG, mais par le Fonds mondial international, par la Banque mondiale, le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté, c'est de réduire les inégalités. C'est pas la croissance économique, par exemple, ce qu'on a cru pendant très longtemps. Et donc ça, bah c'est évidemment, ça contredit totalement une espèce de mythe qu'on appelle le ruissellement, c'est-à-dire que plus les riches vont être riches, plus ça va dégouliner sur les autres. C'est le contraire. Plus ils sont riches, plus ça remonte vers eux. Et donc, bah ça, il faut en faire à la fois prendre conscience, donner les outils. C'est ce que nous, chez Oxfam, on appelle le pouvoir citoyen. Parce qu'on pense que tous les gens ont une partie de la solution. Et qu'on est bien plus nombreux, sur les 67 millions que nous sommes, à être favorables à davantage de redistribution et à davantage de justice. Il faut juste être conscient qu'on peut exercer ce pouvoir. Soit en étant élu, soit en votant, mais aussi au quotidien, en parlant avec ses élus, en signant des pétitions. Il y a plein de moyens d'agir dans le débat pour faire bouger les choses.
Ce n'est pas la croissance économique qui réduit les inégalités. Pourtant, c'est ce que nous rabâche à longueur de temps une frange non négligeable de dirigeants politiques pour nous faire accepter leurs mesures soi-disant d'aide à la croissance. Alors non, pour réduire les inégalités, il faut d'abord commencer par arrêter ce mythe de la croissance et de l'argent qui ruissellera et qui s'appelle Oriot justice sociale. Non, c'est pas ça la justice sociale. Oxfam, qui est plus pragmatique que certains politiques, propose des solutions pour ici, maintenant, là, chez nous en France. Par exemple, une taxe sur les voyageurs aériens fréquents. Avec une recette estimée à 2,6 milliards d'euros. Ou l'extension du malus auto pour les grosses voitures très polluantes, comme les SUV. Recette estimée 1,5 milliard d'euros. Oxfam propose aussi une taxe sur la publicité, par exemple, ça ferait pas de mal. Et c'est toujours pour réduire les inégalités que cette organisation a publié 3 rapports pour des villes solidaires, féministes et adaptées au changement climatique.
Alors, ce qui est sûr, c'est que cette fois-ci, en fait, Oxfam, on s'occupait des questions internationales, des questions nationales, et là, on s'est dit, parce que ça fait un petit moment qu'on travaille sur ces sujets-là, on a organisé ce qu'on appelle l'Oxfam Tour en allant dans un certain nombre de toutes petites villes. On s'est dit, en fait, un certain nombre des valeurs qu'on défend et des mesures qu'on porte peuvent être mises en œuvre au niveau local. Et donc, on a regardé les politiques qui se faisaient sur 3 champs qui sont pour nous importants, les politiques féministes et d'égalité entre les hommes et les femmes, les politiques d'adaptation au changement climatique, parce qu'en France, il y a un gros sujet autour de cette question. On est un des pays d'Europe les plus menacés par le changement climatique. Et enfin, un dernier sujet sur les questions de lutte contre la pauvreté, de justice sociale. Et donc, on a regardé les mairies qui avaient fait des politiques qui marchaient, indépendamment de leurs étiquettes. On a aussi des mairies, on n'est pas une ONG de gauche au sens où on se met pas une étiquette, mais nous, on défend la justice sociale et l'adaptation au changement climatique. Et là, quand on regarde ça, il y a des mairies de toutes les étiquettes qui ont fait des choses qui sont intéressantes. Le but de ces rapports, c'est de montrer ce qui se fait de bien, de dire ce qu'on pourrait faire pour que ça puisse inspirer d'autres élus. Et surtout que ça puisse permettre que les citoyens, les électeurs et les électrices puissent engager un dialogue avec leurs élus en disant « Mais regardez, dans telle ville, ils font ça, pourquoi nous, on ne le fait pas ?» Et ça, ça a bien marché. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une mobilisation autour de ces 3 thématiques au niveau local. Parce que souvent, on a l'impression de se dire, en fait, la politique, soit tu vas sur les listes et tes candidats, etc., soit tu t'en occupes pas, tu peux juste voter. En fait, non. Il y a aussi la possibilité d'avoir cette espèce de dialogue citoyen avec les candidats et avec les élus. C'est ce qu'on a fait à l'occasion de ces élections municipales. Et donc, si les gens qui nous écoutent sont intéressés, parce que là où c'est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas au moment des élections. Maintenant, ils sont élus. Donc, ils vont mettre en œuvre des politiques, donc on peut toujours avoir ces échanges avec les élus. Ces rapports, ils sont sur le site d'Oxfam France, et tous nos rapports, de façon générale, ils sont gratuits, on peut les télécharger, on peut les lire en ligne. Le site, c'est www.oxfamfrance.org.
Auditeur, auditrice, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, direction le site d'Oxfam, et hop, on envoie les rapports d'Oxfam à nos élus, parce que ces rapports sont pleins d'initiatives et de politiques publiques dont ils peuvent s'inspirer pour réduire les inégalités. Voilà, parfois ils n'ont pas trop d'idées pour savoir comment faire, et bien il ne faut pas hésiter à leur partager ces rapports, parce que c'est de véritables répertoires d'initiatives positives, efficaces et réplicables. Alors voilà, j'imagine que vous voulez des exemples de ces initiatives, je me tourne vers Cécile. Quoi dire? Quel exemple donner?
Alors, il y a plein de choses dans ces rapports, donc c'est un peu frustrant de citer que quelques exemples. Mais par exemple, on a mis en lumière qu'à Grenoble, ils ont créé des espaces intergénérationnels dans le cadre de leur plan communal de santé pour accueillir des personnes fragiles pendant les pics de chaleur, notamment les personnes âgées et les jeunes enfants. Donc il y a un endroit à proximité, qu'on sache, dans lequel on peut aller passer du temps pour se mettre à l'abri des très fortes chaleurs. Mais il y a aussi tout le travail qui a été fait par exemple par un certain nombre de communes avec la taxe sur les logements vacants, à la fois pour remettre en location les logements, mais aussi pour éviter d'artificialiser les sols en construisant des nouveaux bâtiments, alors même qu'il y a des bâtiments qui sont vides. Donc voilà deux exemples, mais il y en a d'autres, hein, notamment tout le travail qui a été fait sur ce qu'on appelle la désimperméabilisation, c'est-à-dire que le vrai sujet, c'est de laisser l'eau rentrer dans les sols et se stocker pour éviter les inondations, mais aussi pour permettre de rafraîchir notamment les villes, avec la recréation de parcs, avec le fait de remplacer des parkings qui étaient des dalles de bitume par des zones qui sont arborées ou végétalisées avec des sols qui sont perméables à l'eau. Donc il y a plein de choses qui peuvent être à la fois très techniques, mais qui ont un impact très direct.
J'étais au bar avec des potes, on échangeait des anecdotes. On parlait état du pays, sur population en zombie. Quand s'est levé, d'une seule traite, un type en costard et lunettes, pour nous chanter, sans tenir en place, les plus belles notes, signées en marche. J'ai soupiré, un peu trop fort, avant de dire qu'il avait tort. Facile à dire, depuis ta place, aidé par là, justice de classe. Il a rétorqué, même pas vrai, enfin je vous fais le résumé. Je suis aussi du populo, je gagne à peine 5 000 €. Et là j'ai un petit peu tilté, partant dans la généralité. Vous les mecs bourges, vous savez même plus vous dire privilégié. Et ça n'a pas loupé, se sentant acculé. Avant que je ne comprenne, il a hurlé not all men, not all men, not all men. Pas tous les mecs d'abord, not all men, not all men. Laisse-moi te le dire encore. Ça a duré longtemps. Oh my god, ce fut chiant. Il a tenu sans rien lâcher et j'ai fini par m'incliner. J'étais dans une file d'attente avec des amies importantes. 4 meufs discutent sociaux ensemble et bim, le patriarcat tremble. Un dadette d'1m80, pseudo sportif, pro-parisien, à en croire sa tenue stylée, logo partout et paire de requins. Ça jacte comme un poulailler, trouva-t-il fin de remarquer. Elle porte un souci de virilité, du tac au tac, ai-je balancé. Il a voulu répliquer, notre volume était trop élevé. J'ai donc saisi l'occasion pour parler de son éducation. Que pas supporter que 4 meufs discutent ensemble, c'était pas neuf. Que c'était ultra malhonnête et tellement typique dans un mec. Et ça n'a pas raté, se sentant accusé, transpirant son ménène, il a hurlé not all men, not all men, not all men. Pas tous les mecs d'abord, not all men, not all men. Laisse-moi te le dire encore. C'est parti en dialogue, enfin en monologue. Inutile de continuer, j'ai donc abandonné. J'étais seule porte de Saint-Cloud, mais trop bondée de but partout. Des fans de Paris se plaignaient, zic col roulé, je les ignorais. J'aurais bien pu porter qu'un string, attendre un client sur le parking, que rien n'aurait justifié ce qui m'est alors arrivé. À débarquer, très éméché, un gros patibulaire tatoué, le genre à lever le coude souvent, voire le bras en parlant allemand. J'ai entendu son sifflement, j'ai tout de suite serré les dents. Fais comme si t'as rien entendu, c'est pas non plus une main au cul. À peine il y a je pensais que c'est effectivement arrivé. Dans un réflexe, j'ai hurlé et toute la rame s'est réveillée. Mais non, je déconne évidemment, personne n'a bougé sur le moment. J'ai ragé me disant quand même, comment dire, not all men, not all men, not all men. Pas tous les mecs d'abord, not all men, not all men. Laisse-moi te le dire encore. dans un éclair désespéré, mon poing a fini dans son nez. Bon, j'ai pas trop réfléchi, c'était du pur instinct de survie. Ça a sonné et sauté du trop, mais loin fut emmené cet enfoiré. J'étais groggy et cette année, un petit mec bien attentionné. Wow, qu'est-ce que tu lui as mis? Mais franchement, en pleine nuit, ne pas être accompagné, tu l'aurais pas un peu cherché? Mais qu'est-ce qui tourne pas rond quand t'es témoin de l'action? Pour te faire pousser des ailes au fion, sortir à une victime un tel sermon. J'ai hurlé espèce de connard et sûrement d'autres trucs en art. Merde, sérieusement, j'en ai marre. Vous les mecs êtes tous des crevards. Et croyez-le ou non, malgré la boisson, refusant d'être du problème, il a hurlé not a man. Not all men, not all men, pas tous les mecs d'abord. Not all men, not all men, laisse-moi te le dire encore. Mais cette fois pas de bol, c'était peut-être l'alcool, mais je l'ai attrapé et j'ai très bien visé. Parfois je rêve la nuit, seul au fond de mon lit, d'avoir des mecs pour me réchauffer. Oui, je sais, c'est un peu cliché. Je les aurais tous invités dans un local qui ferme à clé. Parfum d'essence et un briquet, ça ferait un très beau bûcher. Je serais alors ennemi public et les forces de la République auraient pour ordre de me tuer, mais je me rendrais pour un procès. Et lorsque le magistrat me demandera pourquoi j'ai choisi en somme de brûler tous les hommes, de justifier l'injustifiable, de mettre au rang du coupable, aveuglé par la haine, je lui hurlerai not all men. Not all men, not all men, pas tous les mecs d'abord. Not all men, not all men, vous monsieur le juge, vous êtes là encore.
La petite blanc dans du poil sous les bras.
Dans les rapports d'Oxfam, pour des villes solidaires, adaptées au changement climatique et féministes, tout n'est pas technique. Il y a plein de trucs et astuces, des mesures pour lesquelles on se dit « Ah mais oui, non mais bien sûr, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant ?» Il y a des mesures assez consensuelles. En tout cas, beaucoup de mesures qui sont très simples à mettre en place. Il suffit de le décider en fait.
Oui, par exemple, sur la question de comment on regarde les politiques d'égalité femmes-hommes, juste au moment où on met en place une politique, n'importe quoi, on regarde l'impact que ça a pour les hommes et pour les femmes. Est-ce que tel lieu, il est plus fréquenté par les hommes que par les femmes? Et du coup, bah, comme ça, on se rend compte quelle part du budget va en direction des hommes et quelle part du budget va en direction des femmes. Parce que la question de l'égalité femmes-hommes, c'est très simple, si on ne regarde pas, on ne voit pas. Donc il faut compter les femmes, il faut compter ce que ça a comme impact pour vérifier qu'on n'est pas dans une approche totalement inégalitaire. Et ça, ça ne coûte pas d'argent. Hein. D'avoir un budget genré, de regarder l'impact, ça ne coûte rien du tout. C'est juste une sorte de réflexe.
Mais c'est bien sûr, hein, le budget genré, c'est comme le budget vert. Vous savez, le budget vert, c'est de classer les mesures qu'on prend en fonction de leur impact environnemental. Et c'est vraiment bien de pousser vos mairies à établir ce budget vert pour bien comprendre si l'argent investi par la ville va dans le bon sens. Voilà. Et c'est pareil avec le budget genré.
Et quand on réfléchit budget vert et adaptation au changement climatique, on fait surtout des économies, en fait. Parce que faire aujourd'hui des équipements ou des aménagements qui ne seront pas adaptés à l'évolution de notre climat, bah, ça va être très coûteux. C'est une approche qui est une approche très rationnelle pour les finances publiques de la commune aussi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt bénéfique dans toutes les directions. On voit l'effet qui permet d'économiser de l'argent public dans une période où il n'y a pas abondance non plus d'argent public. Donc c'est intéressant, y compris pour les habitants, y compris pour ceux qui prennent la question de la politique locale uniquement par le prisme de savoir combien ils vont payer d'impôts locaux, bah c'est aussi intéressant de le prendre sous cet angle-là.
Alors Cécile Duflo prenait comme exemple d'initiative locale intéressante le budget genré. Évidemment, ça me donne envie de parler un peu plus du rapport d'Oxfam pour des villes plus féministes. Je cite un extrait. Même sans tout pouvoir, une mairie peut inclure plutôt qu'exclure, protéger plutôt qu'ignorer, et combattre les inégalités plutôt que les reproduire. Voilà, Oxfam réalise un gros boulot d'observation sur l'égalité homme-femme dans les villes. Et note, par exemple, la faible féminisation du pouvoir local. Seulement 25% des postes clés de pouvoir à l'échelle locale sont occupés par les femmes. Hein, seulement 20% de mairesses. Seulement 12% de présidentes d'intercommunalités. Et la plus mauvaise note, c'est pour la Corse, avec 11,7% de mairesses. Alors je vous donne là des chiffres qui sont les chiffres de la mandature passée, hein, je n'ai pas eu le temps de me pencher sur les nouveaux chiffres, mais je le redis, l'égalité pour progresser doit être portée politiquement. Si vous êtes une femme, eh ben, a priori vous comprenez un peu mieux ce que c'est d'être une femme. Donc il faut des femmes à des postes de pouvoir en politique pour porter ces mesures progressistes.
Exactement, et il faut qu'on ait des femmes partout. D'ailleurs, on a vu que si on regarde au-delà des maires, il n'y a que 33% des premiers adjoints qui sont des femmes. Donc là, on va faire le bilan, parce que chaque année, désormais, on sort un index de la féminisation du pouvoir en France. Je pense qu'il y a un peu de recul sur les grandes villes, hein, parce qu'il y avait plus de femmes maires. Mais oui, bien sûr que c'est d'abord, c'est normal, parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Et ça, c'est le grand débat sur la loi sur la parité, dont là, on vient de vivre la dernière étape, hein, parce que les petites communes, cette loi ne s'appliquait pas. Et d'ailleurs, on a encore entendu des trucs un peu fous en disant « Non, mais les femmes, elles ne veulent pas s'engager. » Finalement, là, il y a des femmes, il y a des listes paritaires absolument partout. Donc, on les a trouvées, en fait. C'est juste qu'elles ne se précipitent pas pour être candidates, contrairement à certains hommes. Donc, c'est ça qui fait la différence. Mais oui, avoir une diversité dans les élus, c'est très précieux dans la manière d'appréhender les politiques publiques. C'est une évidence. On parle de diversité de genre, de diversité de connaissances et de rapports au monde, mais aussi de diversité d'âge. Hein. Si on n'a que des retraités, bah, c'est vrai qu'ils ne vivent pas la ville de la même manière que si on n'a que des parents d'élèves. Donc vraiment, moi je suis. Et l'histoire de ma vie m'a montré que plus on est dans des organisations qui accueillent la diversité, plus on est robuste en fait, parce qu'on ne passe pas à côté d'un pan de l'histoire.
J'aime beaucoup, moi, ce terme de robuste. Ce qui est robuste, c'est quelque chose qui va persister, qui va durer. La nature est très robuste. Et il vaut mieux des organisations robustes sur lesquelles on peut s'appuyer, des forces solides qui s'adaptent. Voilà. Alors, parmi les idées politiques féministes, il y en a une aussi dont j'avais envie qu'on dise un mot, c'est l'égaconditionnalité, qui vraiment, à mon sens, pourrait faire changer les choses en profondeur.
Alors, l'égaconditionnalité, c'est quelque chose d'intéressant. On a vu récemment que les aides aux entreprises, c'était le principal budget de dépense de l'État. C'est-à-dire que l'État donne beaucoup d'argent aux entreprises. Il peut très bien le conditionner. Il le fait, par exemple, au fait qu'elle a des finances saines. Ça semble évident qu'on ne va pas donner des millions d'euros à une entreprise qui est en cessation de paiement. Ben, on peut tout à fait imaginer que ce soit la même chose avec des éco-conditionnalités en disant on ne peut donner ces aides qu'à des entreprises qui s'engagent dans la transition de leur modèle pour être conformes à l'accord de Paris, mais aussi on peut mettre dans les conditions le fait que hommes et femmes soient considérés de la même manière et que par exemple il y a une politique de rattrapage de salaire des femmes qui historiquement sont moins payées que les hommes, mais toujours aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises à compétences égales, expérience égale, niveau de diplôme égal, sont pas payées pareil. Et donc ça, bah, typiquement, si on dit en fait, si vous respectez pas cette condition-là, vous n'êtes pas éligible aux aides, ça va faire bouger les entreprises. Donc ce qu'on essaye de montrer, c'est les outils de la puissance publique qui peuvent être efficaces pour faire reculer pour les inégalités, notamment les inégalités entre les femmes et les hommes. Oui, on a des outils qui peuvent être efficaces.
Certaines villes sont déjà fortement engagées pour l'égalité homme-femme. Lyon, Paris, Bordeaux ont été pionnières, par exemple, dans la budgétisation sensible au genre, pour que l'argent public bénéficie autant aux femmes qu'aux hommes. Ris-Orangis, elle, a mis en place un statut municipal pour les familles monoparentales. Nancy, Clermont-Ferrand et Rochefort ont ouvert des maisons des femmes et de l'égalité pour l'accueil notamment des femmes qui subissent des violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, il y a des volontés politiques dans certaines villes, et là où il y a une volonté politique, eh bien les politiques publiques suivent. Et il y a vraiment des propositions innovantes qui émergent.
Alors, des initiatives innovantes, ça peut ensuite devenir se généraliser. C'est un peu le but, en fait. Celles qui sont innovantes et qui marchent, c'est pas qu'on reste avec que des innovations à droite à gauche en disant « Ah, on fait un truc super pendant 2 ans ». Non, 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 c'est que ça se généralise. Je vais donner un autre exemple d'un combat qu'on a mené sur le fait que les impôts ne soient pas inéquitables. Jusqu'à il y a peu, quand vous divorciez et que vous avez des enfants, si vous recevez une pension alimentaire, vous deviez la déclarer dans vos impôts comme un revenu supplémentaire. Et l'autre parent, spoiler, en général, le parent qui reçoit, c'est la mère, et le parent qui donne la pension alimentaire, c'est le père, lui, il le déduisait de ses revenus. Comme si, en fait, financer la vie de ses enfants, c'était déductible de ses impôts. Ce qui est un peu aberrant, en fait, parce que quand le couple vit ensemble, on ne déduit pas ce qu'on donne à son enfant pour manger. Et puis surtout, quand on regarde les montants, on parle de 200 euros, 300 euros par mois, ce n'est pas du tout le prix que coûte, entre guillemets, un enfant. Donc, de fait, la manière dont était designé le système d'imposition accentuait les inégalités entre les femmes et les hommes. Il était sexiste au sens littéral du terme. Donc ça, on peut le faire changer en disant, en fait, c'est pas normal que les femmes payent des impôts en plus sur l'argent qu'elles reçoivent pour élever les enfants.
Et ça, on peut le faire changer au niveau local, par exemple ?
Alors, ça, on ne peut pas le faire changer au niveau local, mais on peut réfléchir, par exemple, à des tarifs différenciés pour la cantine, pour les activités périscolaires. On sait très bien que c'est souvent les femmes qui assument et que, après un divorce, les femmes s'appauvrissent, les pères retrouvent leur niveau de vie en 2 ans et le dépassent ensuite. Donc, pourquoi ? Parce que les femmes ont la charge des enfants. Après, c'est un grand plaisir aussi de s'occuper de ses enfants, hein, je veux le dire, parce que souvent, on le met. Mais en revanche, bah, si on veut avoir une politique juste et équitable, il faut prendre en considération le fait qu'effectivement, être une femme seule qui élève ses enfants, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué financièrement, c'est plus compliqué à plein d'aspects, y compris pour la garde des enfants, et qu'on peut imaginer, par exemple, d'avoir des possibilités pour que ces femmes puissent souffler, puissent avoir des moments à elles, des moments où elles ne sont pas obligées d'être tout le temps avec leurs enfants. Parce que c'est déjà plus difficile d'élever seul un enfant, parce qu'un enfant, même 86 cm de chair humaine, ça peut bien faire péter les plombs. Et quand on est deux, que ce soit d'ailleurs le vrai parent ou une autre personne, ça met un peu de triangulation, ça met un peu d'air dans la relation avec les enfants. Être à 100% tête à tête avec ses enfants, avoir tout en charge, à la fois les câlins, les devoirs, la police, etc., ça peut être un peu épuisant. Et donc laisser les femmes et les mamans pouvoir avoir du temps pour elles et pour respirer, ça aussi, ça peut être une politique locale.
Un autre point intéressant quand on parle de ces exemples de politiques publiques innovantes, c'est qu'elles sont, dans leur immense majorité, tout à fait réplicables ailleurs, n'est-ce pas Cécile ?
Oui, il y a plein de politiques publiques qui peuvent se décliner partout. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a souvent certaines qui, si elles ne sont pas mises en œuvre, c'est exactement comme ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'on n'y pense pas, parce qu'il n'y a pas eu de femme à ce poste-là, parce que ça ne semble pas être une priorité. Mais s'il y a des citoyens ou des citoyennes qui poussent pour que ça existe, ben, les élus peuvent être tout à fait OK en disant ben, « Regardez, ça marche dans telle et telle commune, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici aussi. » Et c'est vrai. Et pareil entre les tailles de communes. En fait, il y a des choses qui marchent dans des grandes collectivités, puis on va se dire ah « ben ouais, mais ça, c'est que pour les grandes villes. » En fait, on peut adapter des politiques pour qu'elles soient tenables au niveau local ou intercommunal. Donc, et à l'inverse, il y a des innovations qui sont faites dans des toutes petites communes et qui sont très intéressantes, très intelligentes et que les grandes villes auraient intérêt à utiliser.
Alors tout comme entre des grandes villes et des petites villes, il y a des différences, eh bien entre des communes très denses, de milieux urbains par exemple, et des communes rurales, il y a aussi des similitudes et des problématiques spécifiques qui diffèrent.
Oui, bien sûr, parce que par exemple, dans les politiques d'adaptation au changement climatique, les grandes villes, elles ont pas les mêmes enjeux, notamment c'est souvent la présence très minérale, le fait qu'il y ait beaucoup de bâtiments, donc ça crée beaucoup de chaleur, donc ça ajoute à la chaleur lors des pics de chaleur, mais elles peuvent avoir des réponses en termes de transport qui vont être très différentes de ce qui se passe dans les zones rurales. Donc il y a la réplicabilité, mais il y a aussi l'adaptabilité des politiques en fonction du lieu, de la taille. Mais une petite commune rurale, elle peut aussi s'inspirer de ce que fait une autre petite commune rurale. Enfin, une petite commune rurale du fin fond de la Drôme peut s'inspirer d'une petite commune rurale du fin fond de la Picardie. Donc il y a plein de liens qui peuvent se tisser. Mais je le dis, il y a des politiques publiques parfois qui ont été inventées dans des toutes petites communes et qui ont été utilement déclinées dans des grandes villes.
Alors, Cécile Duflo le précisait tout à l'heure, ces initiatives positives pour des villes durables et solidaires sont portées par des municipalités de tous bords. J'ai quand même envie de préciser qu'il y a un bémol. D'accord pour dire qu'il y a du bon à gauche, comme à droite aussi parfois, mais il y a quand même des branches politiques qui font preuve, en tout cas une branche politique qui fait preuve d'un désintérêt chronique pour les droits des femmes, c'est le Rassemblement national. Et je cite un exemple du rapport d'Oxfam. Ouvrez les guillemets, le Rassemblement national n'est pas un allié des droits des femmes et le bilan des maires sortants en témoigne. À Perpignan, il existe des élus en charge de l'histoire du Roussillon, des relations avec la Fourrière ou encore plusieurs élus au stationnement, mais aucun n'est spécifiquement chargé de l'égalité homme-femme. Je pense qu'on peut dire que l'extrême droite, et l'extrême droite ça démarre de plus en plus tôt à droite, hein, je mets les LR, une bonne partie des LR hein, dans l'extrême droite ne joue pas dans le camp des femmes.
Clairement, on a regardé ce que faisaient les unes et les autres, et c'est vrai que quand on regarde les communes du Rassemblement National, on voit bien que sur des sujets qui sont pour nous des sujets essentiels, et notamment sur l'égalité homme-femme, il y a vraiment soit des reculs, soit une absence totale de politique. Mais aussi sur les questions climatiques, hein, la commune de Moissac, par exemple, elle a refusé de sortir une parcelle qui est très inondable d'une zone constructible, alors même que l'autorité environnementale l'avait conseillé, donc en s'asseyant sur le risque, alors qu'on sait que les inondations et l'aggravation des inondations, à la fois en termes de fréquence, il y en a plus souvent, et d'intensité, elles sont plus importantes. C'est une des conséquences en France du changement climatique.
Des villes féministes, solidaires, résilientes, ça marche ensemble. Lors de la mandature passée, un tiers des grandes villes n'avaient pas d'élus en charge de l'égalité de genre et du droit des femmes. Toulon était parmi les très mauvais élèves et j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer par là-bas. On verra, affaire à suivre. Alors après les municipales, la prochaine échéance, ça ne vous aura pas échappé, ce sont les présidentielles de 2027 qui arrivent à grands pas. Est-ce que là aussi, Oxfam a un plan, dirais-je ?
Alors en fait, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire une politique solidaire aujourd'hui qui ne prend pas en compte les enjeux climatiques, parce que les plus vulnérables, ce sont les plus pauvres, et la crise climatique va aggraver la pauvreté et la précarité. C'est-à-dire que si vous avez une maison qui se fissure, bah, si vous êtes très riche, vous pouvez la réparer. Si vous êtes pauvre, vous n'allez pas pouvoir la réparer et puis vous allez vous retrouver en plus sans logement. Donc on voit bien que ça accentue les inégalités. Donc c'est pour ça qu'il faut lier ces différentes politiques de la même manière que si on veut avoir une réponse à la hauteur en matière climatique, par exemple sur l'évolution des transports, bah, si on n'est pas sensible aux conséquences sociales que ça crée, bah on aboutit à ce qui s'était passé avec les gilets jaunes ou avec d'autres épisodes où on dit aux gens bah débrouillez-vous, en fait on va juste augmenter le prix du pétrole, mais les gens qui sont partis habiter loin de leur travail parce que le logement était trop cher, ils sont dépendants de leur voiture, c'est totalement injuste et même parfois insupportable et financièrement de pouvoir tenir la distance. Alors, c'est sûr qu'on a un plan pour 2027, parce que pour nous, ce qui est important aussi, c'est de voir où et comment s'organise le débat politique. Si je regarde le débat sur le projet de loi de finances de l'année dernière, là, de 2025, on a parlé beaucoup de la taxe Zuckman, donc la taxe qui n'est pas vraiment une taxe, en fait. C'est une sorte de plancher pour que les super milliardaires ne payent pas moins d'impôts en pourcentage de leurs revenus que tous les Français. Ce qui est, comme ça me semblerait quand même un peu évident. D'ailleurs, l'immense majorité des Français, de tous les soutiens de tous les partis d'ailleurs, sont favorables à cette taxe. Mais l'année d'avant, on avait eu un débat vraiment pourri autour de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire le fait de financer des soins de santé pour les gens qui sont en situation irrégulière, dont on sait que c'est une politique de solidarité et de valeur, mais c'est aussi une politique de santé publique, puisque si vous laissez des gens être malades, en fait, vous rendez toute la population malade. Mais c'était un débat vraiment pourri, en plus, sur des tout petit montant, rien à voir avec ce que rapporterait la taxe Zuckman. Et donc, si on arrive à installer le débat politique autour de la taxe Zuckman, bah, c'est pas du tout le même climat de débat politique, il est autour de la justice sociale, que si on fait celui sur l'AME, où en fait c'est un débat raciste. Donc, on voit bien que ce travail qu'on peut faire de notre côté, nous, organisation de la société civile, c'est de mettre un certain nombre de sujets dans le débat public. Et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant l'année qui vient.
Thank you.
Minuit, soleil, tête sur la vitre, j'ai pas sommeil. La city dort depuis 6 mois. Dis, c'est vraiment n'importe quoi ce qu'on vit. Dis-moi, minuit, Marseille, je voudrais bien que la vie se réveille, qu'elle remplisse tout d'un feu grisant, qu'on n'entende que les pneus qui crissent. La vie reprend. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons. Titanic coule sur l'oreiller, et moi je me retiens encore une fois de pleurer. Minuit, pareil, que les chiens qui se la coulent belle. 18 carats sur le collier, et la même envie insoutenable de s'évader. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons.
Petite blanche dans du poil sous les bras.
Ce que j'ai envie de rajouter là, c'est quand même, on est dans un moment où on peut avoir le sentiment que tout nous échappe. Enfin, la situation internationale, elle est quand même très compliquée. Ce qui se passe toujours en Ukraine, au Moyen-Orient, des dirigeants internationaux comme Trump qui mettent le monde à feu et à sang au sens littéral. Et en France, une situation politique qui n'est pas facile non plus. Donc on peut avoir deux tentations, un ou d'être un peu désespéré ou de vouloir se replier sur juste autour de soi en se disant bah ça je maîtrise. Et moi je pense qu'il faut résister contre cette forme de désespérance ou de repli. Et ce que j'ai vu dans l'histoire de ma vie, parce que j'ai effectivement été aux manettes avec élu, avec du pouvoir, c'est qu'en fait on peut faire changer les choses. Moi, une de mes grandes fiertés, c'est l'encadrement des loyers. Donc en 2013, on fait revenir l'encadrement des loyers. Depuis 1986, il y avait une dérégulation totale des loyers. Ça a été compliqué, hein, ça a été un peu intense, mais de fait ça marche. Et donc il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Donc moi, je fais vraiment pas partie des gens qui croient qu'il y a une fatalité dans un certain nombre de décisions. Au contraire, on a beaucoup plus de pouvoir de faire bouger les choses que ce qu'on croit. Et une grande partie de l'énergie de ceux qui veulent pas que les choses changent est employée justement à essayer de nous démoraliser ou de nous faire abandonner le terrain. Donc à tous les gens qui m'écoutent et qui se sentent un peu blasés ou impuissants, je leur dis non. Et je l'ai dit tout à l'heure, hein, quelques 53 milliardaires en France, 67 millions d'habitants. Franchement, on gagne. Alors
Alors si vous aussi, vous rêvez que votre ville devienne pionnière dans la lutte contre les violences faites aux femmes, exemplaire sur l'égalité homme-femme ou qu'elle se distingue par des objectifs ambitieux pour lutter contre la pauvreté des femmes par exemple, ou tout ça à la fois, eh bien lisez, relisez, partagez les rapports d'Oxfam pour des villes solidaires et engagées contre le changement climatique et donc des villes forcément féministes, parce que sans égalité entre les hommes et les femmes, point de solidarité, point de résilience, point de salut. En France, je vous le rappelle, Philippe Janicot, mis en examen pour 4 viols, a, malgré cela, été réélu le 15 mars à Boisseuil, près de Limoges. En France encore, les violences envers les femmes persistent. Un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes. Oui, toutes les 2 minutes. En France, la montée des masculinismes est extrêmement importante. Alors moi, j'ai envie de demander à Cécile Duflot, bon, est-ce qu'on va te revoir en politique ?
Moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas dire toujours ou jamais, parce que j'ai vu tellement de gens dire des trucs comme ça et faire le contraire que ça m'a vaccinée. Donc, je suis plutôt plus très réservée, justement, parce que j'ai trouvé les gens se ridiculiser et j'ai pas envie de me ridiculiser. Il y a pas d'évidence non plus. Ce qui est sûr, c'est que et j'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle Gagnon, qui est sorti il y a quelques semaines. C'est que je pense que tout le monde doit se mobiliser pour 2027, que c'est pas une élection comme une autre, que là notre pays il hésite un peu avec l'extrême droite et que ça ce serait dramatique. Donc y compris les gens qui sont pas dans le champ politique traditionnel comme moi, on doit pouvoir faire peut-être différemment de ce qu'on a fait. Et puis j'avais jamais prévu de devenir ministre quand j'étais jeune, hein, même quelques mois avant. C'était faisait pas partie du tout des évidences et c'est arrivé, donc je dis pas que ça pourra pas réarriver. Ça a été très satisfaisant, c'était une très belle expérience de ma vie. J'avais fait de la politique dans un parti et je crois que j'étais très fatiguée de ça. J'étais plus tellement sûre que vraiment j'étais utile. Et ces 2 ans comme ministre du logement, ça a changé ma vie. Parce que je me suis dit d'abord, une fille comme moi venue de nulle part, c'est-à-dire du fin fond de la Seine-et-Marne, peut devenir ministre. Donc ça veut dire que c'est possible, c'est pas réservé à quelques-uns. Et la deuxième chose, c'est que on a fait des choses. Et des choses que je crois utiles pour plein de gens. Et donc ça m'a aussi en fait presque réconciliée avec la politique. Donc je m'en suis éloignée parce que, pour le coup, j'ai traversé une époque qui était une époque avant MeToo, qui était très violente à l'égard des femmes, et en particulier des jeunes femmes, et en particulier des jeunes femmes écologistes. Donc je pense que je m'en étais pris plein la tête, et que moi, je voulais pas devenir une vieille femme cynique, frustrée, un peu dégoûtée. Donc je reviens à ce que je disais tout au début. Je pense que je suis très renourrie, je suis vraiment très équilibrée, très bien, très sereine. Et peut-être que c'est ça qu'il faut pour faire de la politique. Donc peut-être que j'en ferai et peut-être pas. Peut-être que je ferai totalement autre chose. Je pense que personne n'est totalement indispensable. Mais moi, peut-être qu'au vu de cette expérience, je peux être utile et que ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Donc c'est dans cet entre-deux que je suis au moment où on se parle, c'est-à-dire au printemps 2026.
Qui vivra verra ce qui se passera en 2027. Une chose est sûre, Cécile Duflot ne pense pas à la présidence tous les matins en se rasant comme d'autres. D'ailleurs, se rase-t-elle tous les matins? Je ne crois pas, non. Que pense-t-elle de ses poils par ailleurs?
Alors les poils, c'est un gros sujet chez moi, parce que moi j'avais une mère et une grand-mère qui ne s'épilaient pas, et je me suis fait un peu humilier parce que je savais pas qu'on s'épilait pas, et du coup j'ai appris à le faire, et j'étais très fière de moi, et quand j'ai eu des filles, je me suis dit, alors là, je vais être au taquet, donc je pense que j'ai arraché les poils entre les 2 sourcils de ma fille, à la pince à épiler. Je pensais faire bien. Et en fait, j'ai créé un trauma chez mes filles. Donc ça a été un gros débat entre nous. Et donc j'aurais présenté mes excuses. Parce que j'ai cru faire bien alors que j'ai fait n'importe quoi. Donc gros sujet familial, gros sujet de déconstruction. Mais je me rase quand même sous les bras.
Du poil sous les bras, émission radiophonique, mais pas que. Eh bien, ça continue le mois prochain pour réfléchir ensemble à un futur plus juste, parce que notre présent n'est peut-être pas idéal, ça ne vous aura pas échappé. Alors serrons-nous les coudes, musclons nos cerveaux et préservons les petits trésors que sont les radios locales, ces médias indépendants et populaires dont on aura besoin plus que jamais en 2017. Oui, parce qu'on a beau jouer les optimistes, l'union des progressistes, c'est pas gagné, on va pas se mentir, pour l'heure, pas de quoi se réjouir, je crois.
Je suis pas super méga confiante. C'est pour ça que je me dis qu'on doit peut-être tous prendre un bout du bâton de pèlerin pour essayer de faire avancer les choses.
Allez, restons optimistes quand même et à bientôt dans Du Poil Sous les Bras.